Juste représailles. Donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum. Vêpres du dimanche. Psalmo nescio quo. Chanotus de Bragmardo. Le père Bédouin vit Camus en même temps que l'aperçut celui-ci. Mais si le gosse avait parfaitement reconnu le vieux du premier coup, la réciproque n'était heureusement pas vraie. Seulement le garde champêtre, sentant, avec son flair de vieux briscard, que le galapia qu'il avait devant lui devait être pour quelque chose dans cette nouvelle affaire, ou tout au moins pourrait lui donner quelques renseignements ou explications, il lui fit signe de l'attendre et marcha droit à lui. Cela faisait bien l'affaire de Boulot qui appréhendait fort que ce vieux sagouin ne vint de son côté et ne découvrit le garde-meuble des camarades de Longeverne. Boulot, pour l'empêcher de parvenir à cet endroit, était résolu à tout employer, et le meilleur moyen était encore l'injure à courte distance, pourvu toutefois qu'on eût, comme c'était le cas, des arbres et des buissons afin de se dissimuler et de n'être point reconnu. De cette façon, en jouant habilement des jambes, on pouvait entraîner le vieux très loin du terrain de combat. Quand la perdrix voit ses petits en danger, et n'ayant qu'une plume nouvelle... Boulot avait appris la fable. Cette ruse d'oiseau lui avait plu, et comme il n'était pas plus bête qu'une perdrix dont il imitait à s'y méprendre le tirouite, il saurait bien, lui aussi, entraîner au loin et semer Zéphyrin. Ce petit jeu, cependant, n'allait pas sans quelques risques et complications, dont les plus graves étaient la présence ou la venue en ces lieux d'un habitant du village ayant bon pied et bon œil, qui le dénoncerait aux gardes. Ou même, ça s'était vu, s'il était parent, allié ou ami, s'autoriserait de cette familiarité pour venir attraper par l'oreille le délinquant et le conduire en cette posture au représentant de la force publique, situation fâcheuse comme on peut croire. Et comme Boulot était prudent, il préférait ne pas se mettre dans le cas d'encourir ce risque. Il n'avait, d'autre part, pas de notion exacte sur l'issue de la bataille et la façon dont le braque avait dirigé ses troupes. Les cris entendus lui avaient seulement appris qu'un sérieux assaut avait été donné. Oui, mais où en étaient maintenant les camarades? Grave question. Camus, lui, comme bien on pense, ne perdit pas son temps à attendre le garde champêtre. Dès qu'il eut vu que l'autre voulait le rejoindre et se diriger de son côté, il fit prestement demi-tour, se baissant en sautant dans le ravin, et fila vers les camarades en leur criant, pas trop fort du reste, de fuir par en haut, puisque le charognard, ainsi désignait-il le trouble-guerre, venait du côté du bas. Zéphyrin, voyant s'enfuir Camus, ne douta pas un seul instant que ces sales morveux étaient encore en train de lui en jouer une. Il se souvint du coup de l'avant-veille où l'autre lui avait montré son derrière sans voile et, comme il se sentait d'attaque ce soir-là, il piqua un pas de gymnastique pour rattraper le galopin. Suant et soufflant, il arriva juste à point pour voir la nichée de Gaillard, nu comme des vers, fuir et disparaître entre les buissons du haut de la saute, tout en hurlant à son adresse des injures sur le sens desquelles il n'y avait pas à se méprendre. « Vieux salaud! Putassier! Vérolard! Vieux bac! Hé, on t'emmerde! Petit cochon! Ah! Dégoûtant! Polisson! Mal élevé !» ripostait le vieux, reprenant sa course. « Ah, que j'en attrape un seulement! Je lui coupe les oreilles, je lui coupe le nez, je lui coupe la langue, je lui coupe !» Bédouin voulait tout couper. Mais pour en attraper un, il aurait fallu avoir des jambes plus agiles que ces vieilles guiboles. Il battit bien les buissons de tous côtés, mais ne trouva rien et suivit de loin à la voix une trace qu'il crut bonne, mais qui devait bientôt lui faire faux bond elle aussi. Camus, Grand Gibus et la Crique, tous trois vêtus pour protéger le retour et la mise en tenue de leurs camarades, avaient réalisé ce que Boulot avait eu un instant l'intention de faire, et attiré Zéphyrin par les pâtures de Chazalon, loin, loin, du côté de Velleran, afin aussi de lui donner le change et lui laisser croire sa faible vue aidant que c'étaient les gamins du village ennemi qui étaient les seuls coupables de cet attentat à sa dignité de vieux défenseur de la patrie et représentant de la loi. Tous les signaux de méfiance et de ralliement étaient convenus d'avance. Le bois ennemi était désert. Camus et ses deux acolytes, quand ils jugèrent le moment venu, cessèrent de crier des injures à Bédouin, firent un brusque crochet dans les champs, longèrent en rampant le mur de la pâture à fricot, rentrèrent dans le bois et par la tranchée du haut vinrent déboucher dans les buissons du communal, à une centaine de mètres au-dessus du coude du chemin, c'est-à-dire du champ de bataille. Il était bien désert à ce moment-là, le champ de bataille, et rien n'y rappelait la lutte épique de l'heure précédente. Mais dans les buissons du bas, ils entendirent le tirouit des Longevernes qui régulièrement les rappelait. Grâce à leur habile diversion, en effet, la troupe surprise avait pu regagner le camp que gardait Bouleau et, à la hâte d'Ardard, remettre chemise, culotte et blouson et souliers. Bouleau affairé allait de l'un à l'autre, aidant de toutes ses mains, n'ayant pas assez de ses 10 doigts pour rentrer les pans de chemise, ajuster les bretelles, boutonner les pantalons, ramasser les casquettes, lacer les cordons de souliers et veiller à ce que personne ne perdît ni n'oubliât rien. En moins de 5 minutes, jurant et grognant contre cette sacrée vieille fripouille de garde qui se trouvait toujours où on ne le demandait pas, les soldats de l'armée avaient, avec une juste satisfaction, réintégré leur pelure et, demi-satisfaits d'une demi-victoire dans laquelle on n'avait pas fait de prisonniers, s'échelonnaient du haut en bas en 4 ou 5 groupes pour appeler les 3 éclaireurs aux prises avec Bédouin. « Il me le paiera, celui-là !» faisait Lebrac. « Oui, il me le paiera. C'est pas la première fois que ça lui arrive de chercher à me faire des misères. Ça ne peut pas se passer comme ça, ou ben il n'y aura plus de bon Dieu, plus de justice, plus rien. Ah non, nom de Dieu, non, ça ne se passera pas comme ça !» Et le cerveau de Lebrac ruminait une vengeance compliquée et terrible, et ses camarades, eux aussi, réfléchissaient profondément. « Disons que Lebrac, » proposa Tintin, « il y a ces pommes au vieux. Si on allait un peu lui caresser ses arbres à coups d'arvachot pendant qu'il nous cherche à chasse à l'an, hein ? Qu'en dis-tu ? Et lui faire sauter son carré de chou, » compléta Tigibus. « Lui casser ses carreaux, » fit Guerrillas. « Ça, c'est des idées, » convint Lebrac, qui lui aussi avait la sienne. « Mais attendons les autres. Et puis, on ne peut guère faire ça le jour. Des fois que si on était vus, il pourrait bien nous faire aller en prison avec des témoins. Un vieux cochon comme ça, que ça n'a ni cœur ni entrailles, faut pacifier, vous savez. Enfin, on verra bien. « Tirouit ? » interrogea-t-on dans les buissons du couchon. « Les voici, » fit Lebrac, et il imita à 3 reprises le rappel de la perdrix grise. Une forte saboté, frappant le sol à coups redoublés, lui apprit la venue des 3 éclaireurs et le rassemblement à son poste des divers groupes disséminés par le coteau. Quand tout le monde fut réuni, les coureurs s'expliquèrent. « Zéphirin, assurèrent-ils, jurez les tonnerres et les bordels de Dieu contre ces sales petits morpions de Véran qui venaient emmerder les honnêtes gens jusque sur leur territoire. Et le pauvre bougre suait, s'épongeait et soufflait, tel un carcan poussif qui tire une voiture de 2000 en montant une levée de grange rapide comme un toit. « Ça va bien, » affirma Lebrac. « Il veut repasser par ici, faudra que quelqu'un reste pour le guetter. » La crique, qui était déjà psychologue et logicien, émit une opinion. « Il a eu chaud, par conséquent, il a soif. Donc il va se retourner tout droit au pays pour aller prendre sa purée chez Fricot l'aubergiste. Faudrait peut-être bien que quelqu'un aille aussi par là-bas. » « Oui, » approuva le chef, « c'est vrai. 3 ici, 3 là-bas. Les autres vont tous venir avec moi dans le bois du Teuré. Maintenant, je sais ce qu'il faut faire. » Il en faudra un malin près de chez Fricot, continua-t-il. La crique va y partir avec Chanchelet et Pirouli. Vous jouerez aux billes sans avoir l'air de rien. Bouleau lui restera ici, calé dans la carrière avec 2 autres. Faudra bien regarder, bien écouter ce qu'il dira. Quand le vieux sera loin et qu'on saura ce qu'il va faire, vous viendrez tous nous retrouver au bout de la vie à Donzé, près de la croix du Jubilé. Alors on verra, et je vous dirai de quoi elle retourne. La crique fit remarquer que ni lui ni ses camarades n'avaient 2 billes, et Lebrac, généreusement, lui en donna 12. « Pour 1 sou, mon vieux !» afin qu'ils pussent, devant le garde, soutenir convenablement leur rôle. Et sur une dernière recommandation du chef, la crique, plein de confiance en soi, ricana. « T'embête pas, ma vieille, je me charge bien de lui monter le coup proprement à ce vieux trou du cul-là !» La dislocation s'opéra sans tarder. Lebrac, avec le gros de la troupe, gagna le bois du Teuré et, sitôt qu'on y fut, ordonna à ses hommes d'arracher des grands arbres les plus longues chaînes de vélis ou vélières, clématites, qu'ils pourraient trouver. « Pourquoi faire ? » demandèrent-ils. « Pour fumer ? On va faire des cigares, chouette !»« Ne la cassez pas, surtout, » reprit Lebrac, « et trouvez-en autant que vous pourrez. Vous verrez bien plus tard. Toi, Camus, tu grimperas aux arbres pour la détacher. Tu monteras haut, il en faut de longs bouts. » Pour ça, je m'en charge, fit le lieutenant. Auparavant, il y en aurait qui auraient de la ficelle par hasard, questionna le chef. Tous en avaient des morceaux d'une longueur variant de 1 à 3 pieds. Ils les présentèrent. « Gardez-les !»« Oui, » conclut-il en réponse à une question intérieure qu'il s'était posée. « Gardez-les et trouvons de la vélie. » Dans la vieille coupe, ce n'était pas difficile à découvrir. C'était ça qui manquait le moins. Le long des grands chênes, des foyards, des charmes, des bouleaux, des poiriers sauvages, de presque tous les arbres, les souples et durs lacets montaient, grimpaient, s'accrochaient par leurs feuilles en vrille aux fûts noueux, s'enroulaient serpents végétaux et vivaces pour escalader l'azur, conquérir la lumière et boire avec chaque aurore leur lampée de soleil. Il y avait en bas et presque partout sur le sol des vieilles souches grises, dures et raides, s'écaillant en filaments comme du bœuf bouilli trop cuit, pour s'effiler au sommet en fouet souple et résistant. Camus grimpait. Tétas et Guignard aussi. Ils formaient trois chantiers qui opéraient simultanément sous l'œil vigilant de Lebrac. Ah, c'était bientôt fait, l'escalade. Quelque gros que fût l'arbre, Camus, comme un lutteur antique, l'attaquait à bras-le-corps, franchement. Souvent même, ses bras trop courts n'arrivaient pas à en étreindre complètement le tronc. Qu'importe. Ses mains aplaties s'accrochaient comme des ventouses à tous les nœuds d'écorce, ses jambes se croisaient enlaçantes comme des ceps de vigne tordues, et une détente solide de jarret vous le projetait d'un seul coup à 30 ou 50 centimètres plus haut. Là, nouvel agrippement de mains, nouvel arrimage de jarret, et en 15 ou 20 secondes, il accrochait la première branche. Alors ça ne traînait plus. Un rétablissement sur les avant-bras et la poitrine d'abord, puis les genoux arrivés à hauteur de cette barre fixe naturelle et s'y installer. Et puis les pieds ne tardaient pas à remplacer les genoux. Et la montée jusqu'au sommet s'opérait ensuite aussi naturellement et facilement que par le plus commode des escaliers. La liane végétale tombait vite entre leurs mains, car au pied de l'arbre, un camarade à l'eustache tranchant rasait la tige au niveau du sol tandis que 3 ou 4 autres gars, tirant dessus avec toutes les précautions d'usage, l'amenaient à eux par degrés. Que de fois les petits bergers avaient fait cela en été à la Saint-Jean, et enguirlandaient de verdure et de fleurs des champs les cornes de leurs bêtes. La clématite, le lierre, les bleuets, les coquelicots, les marguerites, les scabieuses marquaient leurs couleurs parmi la verdure sombre des couronnes tressées, pour lesquelles on rivalisait d'ingéniosité et de goût, et c'était une joie le soir de voir revenir à pas pesants et faisant tinter leurs clochettes les bonnes vaches aux grands yeux limpides, fleuries et couronnées comme des mariées de mai. En rentrant, on accrochait le bouquet au-dessus de la porte de la cuisine. Parmi les grands clous de baudrillon où la panoplie luisante et rustique des faux jetait ses feux sombres, et on l'y laissait sous l'abri de l'auvent se dessécher jusqu'à l'année suivante et plus longtemps quelquefois. Mais il ne s'agissait pas de cela aujourd'hui. « Dépêchons-nous !» pressa Lebrac, qui voyait tomber la nuit et les brouillards du couchant se lever sur le moulin de Velleran. Et ayant fait rassembler le butin, après s'être livré mentalement à des opérations mathématiques compliquées et avoir avec soin ôné de ses bras étendus les liens dont on disposait, il décida le départ pour le carrefour de la Croix du Jubilé en passant entre les haies de la vie de Adonzé. Lebrac avait 4 morceaux de résistance, longs chacun d'environ 10 mètres et 8 autres plus petits. Chemin faisant, après avoir soigneusement recommandé de ne pas casser les grands bouts, il ordonna de nouer autant que possible les petits 2 à 2. Et cependant que 16 soldats portaient ses engins de combat et que les autres les regardaient, lui, le chef, se mit à réfléchir profondément jusqu'à l'arrivée au point de concentration. « Qu'est-ce qu'on va faire, Lebrac ?» interrogeait tour à tour les gars. La nuit tombait peu à peu. « Ça dépend, » répondit évasivement le chef. « Il va bientôt être temps de rentrer, » constata un des petits. « Les autres ne viennent pas, ni Boulot, ni la crique. Qu'est-ce qu'ils font ?» « Qu'est-ce qu'a pu devenir le vieux ?» On s'impatientait enfin, et l'air mystérieux du chef n'était pas pour calmer l'énervement général. « Ah, voici Boulot avec ses hommes !» s'éjouit Camus. « Eh bien, Boulot !»« Eh bien, » reprit l'autre, « il a passé par la grande route tout en bas, et on aurait pu l'attendre longtemps si j'avais pas eu l'œil. Il a dû redescendre le bois et regagner la route par le petit sentier qui part de la sommière. Nous l'avons vu de la carrière. Il faisait des grands moulinets avec ses bras, tout comme Quinquin quand il est saoul. Il doit être salement en colère. Tigibus, commanda Lebrac, va voir ce que fait la crique et tu y diras de venir me dire tout de suite ce qui se passe. Tigibus, docile, partit au triple galop, mais à 30 sauts du groupe, un tirouïde discret l'arrêta. C'est toi la crique ? Viens vite, mon vieux, viens vite dire où ça en est. Ils arrivèrent en quelques secondes. La crique fut entourée par l'eau. Un quart d'heure avant, rouge comme un coq, Bédouin s'était amené alors qu'ils jouaient tous trois bien tranquillement aux billes devant chez Fricot. Tous en cœur lui avaient souhaité le bonsoir et le vieux leur avait dit « À la bonne heure. Au moins vous, vous êtes de bons petits garçons. C'est pas comme vos camarades. Un tas de salauds, de grossiers. Je les foutrai dedans. » La crique avait regardé le garde avec des quinquets comme des portes de grange qui disaient sa stupéfaction. Puis il avait répondu à M. Zéphirin qu'il devait sûrement se tromper, qu'à cette heure tous leurs camarades devaient être rentrés chez eux, où ils aidaient la maman à faire les provisions d'eau et de bois pour le lendemain, ou bien seconder à l'écurie le papa en train d'arranger les bêtes. « Ah ! » qu'avait fait Zéphirin. « Alors, qui c'est donc qui était à la saute tout à l'heure ?»« Ça, monsieur le garde, je sais pas, mais ça m'étonnerait pas que ce soit les Vélerons. Hier encore, tenez, ils ont accaillonné les deux gibus quand ils retournaient chez Auvernois. C'est des gosses mal élevés, on voit bien que c'est des cafards, allez » avait-il ajouté hypocritement, flagornant l'anticléricalisme du vieux soldat.
Je m'en doutais, nom de Dieu,
grogna Bédouin en grinçant ce qui lui restait dedans, car on s'en souvient, Longeverne était rouge et Vélran blanc.
Oui, nom de Dieu, je m'en doutais, les mal élevés, c'est ça leur religion, montrer son cul aux honnêtes gens, race de curés, race de brigands. Ah, les salauds, et que j'en attrape un.
En se disant, Zéphirin, après avoir souhaité au gosse de bien s'amuser et d'être toujours sage, était entré boire sa petite purée chez Fricot. «
Il crevait de soif, continua la crique. Aussi, elle n'a pas fait long feu, maintenant il sirote la seconde. Je laissais chercher
et Pirouli là-bas pour le surveiller et venir nous prévenir au cas où il sortirait avant mon retour. »
« Ça va très bien, conclut le braque, se déridant tout à fait. Maintenant, quels sont ceux qui peuvent rester encore un petit moment ici ? Nous n'avons pas besoin d'être tous ensemble, au contraire. »
8 se décidèrent, les chefs naturellement. Gambette parmi eux fut plus long à prendre une résolution. Il habitait loin, lui. Mais le braque lui fit remarquer que les gibus restaient bien et que, comme c'était lui le plus leste, on aurait sûrement besoin de son concours. Stoïque, il se rendit aux raisons de son chef, risquant la raclée paternelle si l'alibi ne prenait pas.
Maintenant, vous autres, exposa le braque, ce n'est pas la peine de vous faire engueuler à la maison. « Allez-vous-en, on fera bien sans vous. Demain, on vous racontera comment que les choses se sont passées. Ce soir, vous nous gêneriez plutôt. Et dormez tranquille, le vieux va nous payer ses dettes.
Surtout, ajouta-t-il, écampillez-vous. Ne restez pas en bande. On pourrait peut-être se douter de quelque chose, et il ne faut pas de ça. » Quand la bande fut réduite à Le Braque, Camus, Tintin, La Crique, Boulot, les deux gibus et Gambette, le chef exposa son plan. Ils allaient tous en silence, leurs cordes de véli à la main, traînant derrière eux, descendre la grande rue du village, et les hommes désignés à cet effet se placeraient aux endroits voulus, entre deux fumiers se faisant face. Deux groupes de deux gars suffiraient pourtant d'en travers de la route, au passage du garde, les traîtres qu'ils feraient trébucher, rouler à terre et passer pour plus saouls encore qu'ils ne seraient. Il y aurait quatre endroits où l'entendrait les embuscades. On descendit. Au fumier de chez Jean-Baptiste, on laissa un lien et un autre à celui de chez Gros Coula. Boulot et Tigibus devaient revenir au dernier. La Crique et Grand Gibus à l'avant-dernier. En attendant, ils continuèrent tous à avancer, et Boulot, chef d'embuscade, s'arrêta avec son compagnon au fumier de chez Boteau, tandis que la Crique et son copain venaient se poster à celui de chez Donny. Les autres allèrent relever de leur faction Chanché et Pirouli qu'ils renvoyèrent d'abord et immédiatement dans leur foyer. Ensuite de quoi, ils s'en furent à travers les carreaux, reluquer ce que faisait le vieux. Il en était à sa troisième absinthe, et pérorait comme un député sur ses campagnes réelles ou imaginaires. Imaginaires plutôt, car on l'entendait dire.
Oui, un jour que je m'en devais venir en permission depuis Alger à Marseille, j'arrive juste, nom de Dieu, que le bateau venait de partir. Qu'est-ce que je fais ? Il y a justement une bonne femme du pays qui lavait la buée au bord de la mer. Je ne fais ni une ni deux. J'y fous le nez dans un baquet. Je renverse son cuveau, je saute dedans et avec ma crosse de fusil, je rame dans le suyage du bateau et je suis arrivé quasiment avant lui à Marseille.
On avait le temps. Gambette fut laissé en embuscade derrière un tas de fagots. Il devait le moment venu prévenir les deux groupes ainsi que le braque et ses acolytes de la sortie de Zéphirin. En attendant, il put entendre le récit de la dernière entrevue de Bédouin avec son vieux copain, l'empereur Napoléon III.
Oui, comme je passais à Paris près des Tuileries, je me demandais si j'entrerais lui donner le bonjour, quand je sens quelqu'un qui me tape sur l'épaule. Je me retourne, c'était lui.
Oh, ce sacré Zéphirin qu'il a fait, comme ça se trouve.
Entrons, on va boire la goutte. Génie ! Cria-t-il à l'impératrice. C'est Zéphirin, on va trinquer, rince de verre.
Les trois gaillards, pendant ce temps, remontaient le village et arrivaient à la maison du garde. Par une lucarne de la remise, le braque se glissa à l'intérieur, ouvrit à ses camarades une petite porte dérobée, et tous trois, de couloir en couloir, pénétrèrent dans l'appartement de Bédouin où, un quart d'heure durant, ils se livrèrent à un mystérieux travail parmi les arrosoirs, les marmites, les lampes, le bidon de pétrole, les buffets, le lit et le poêle. Ensuite de quoi le thyroïde de Gambette, annonçant le retour de leurs victimes, ils se retirèrent aussi discrètement qu'ils étaient rentrés. Vivement, ils accoururent au deuxième poste de boulot où ils arrivèrent bien avant la venue de ce dernier. Le père Zéphirin, après avoir en effet une dernière fois encore raconté à Fricot des histoires sur les arbis et les chacals, et parlé des raquins qui infectaient la rade d'Alger, même qu'une de ces sales bêtes avait, un jour qu'il se baignait, coupé le zobi à un de ses camarades, et que la mer s'était toute teintée de sang, partit en titubant et en traînant les semelles sous les regards amusés du bistrot et de sa femme. Quand il arriva vers chez Denis, pouf, il prit une première bûche en jurant des tonnerres de Dieu contre ce sale chemin que le père Brédan, le cantonnier, un feignant qui n'avait fait que 7 ans, et la campagne d'Italie, quelle foutaise, entretenait salement mal. Puis, après y avoir mis le temps, il se redressa et repartit. « Je crois qu'il a sa mal, » jugea Fricot en refermant sa porte. Un peu plus loin, la liane de bouleau, traîtreusement tendue devant ses pas, le fit rouler dans le ruisseau de Purin, tandis que filaient en silence, en portant leurs liens, les deux ténébreux machinateurs. Au fumier de chez Gros Coulas, il ne manqua pas non plus de reprendre la bûche, en sacrant de tous ses poumons contre ce salaud de pays où l'on n'y voyait pas plus clair que dans le cul d'une négresse. Cependant, les gens, attirés par son vacarme, sortaient sur le pas de leur porte et disaient « Eh bien, je crois qu'il a sa paille, le vieux briscard, ce soir. Pour une belle cuite, c'est une belle cuite. » Et 15 ou 20 pères d'yeux purent constater que 20 pas plus loin, le vieux, méconnaissant encore les lois de l'équilibre, reprenait une de ces bûches qui comptent dans la vie d'un poivreau. « Je suis pourtant pas sous, nom de Dieu !» bégayait-il en portant la main à son front bossué et à son nez meurtri. « J'ai presque rien bu !» C'est la colère qui m'en monte à la tête. Oh, les salauds ! Il n'avait plus de genoux à son pantalon, et il mit bien 5 minutes à trouver sa clé, ensevelie au fond de sa poche sous son ample mouchoir à carreaux, parmi son couteau, sa bourse, sa tabatière, sa pipe, sa blague et sa boîte d'allumettes. Enfin, il entra. Les curieux qui le suivirent, au nombre desquels les 8 moutards, constatèrent dès ses premiers pas un vacarme d'arrosoir renversé. C'était prévu, et les avait disposés pour cela. Enfin, le vieux, s'étant frayé tout de même un passage, arriva au réduit creusé dans le mur où il logeait ses allumettes. Il en frotta une sur son pantalon, sur la boîte, sur le tuyau du poêle, sur le mur, elle ne prit point. Il en frotta une deuxième, puis une troisième, une quatrième, une cinquième, toujours sans résultat, malgré les changements de frottoir. « Frotte, mon vieux !» ricanait Camus qui les avait toutes trempées dans l'eau. « Frotte, ça t'amusera !» Las de frotter en vain, Zéphirin en chercha une dans sa poche, la frotta, l'enflamma, et voulut allumer sa lampe à pétrole. Mais la mèche fut récalcitrante, elle aussi, et ne voulut jamais prendre. Zéphirin, par contre, s'échauffait. « Sacré nom de Dieu, de saloperie de putasserie de vache! Ah, nom de Dieu, tu ne veux pas prendre! Ah, tu ne veux pas prendre, vraiment! Ah oui, c'est comme ça! Et tiens, tiens, nom de Dieu, prends ça la saleté !» fit-il en la lançant de toutes ses forces contre son poêle où elle se brisa et fracas. « Mais il va foutre le feu à sa boîte !» dit quelqu'un. « Pas de danger !» pensait le braque qui avait remplacé le pétrole par un reste de vin blanc traînant au fond d'une bouteille. Après cet exploit, le vieux, ambulant dans l'obscurité, heurta son poêle, renversa des chaises, donna du pied dans les arrosoirs, tituba parmi les marmites, beugla, jura, injuria tout le monde, tomba, se releva, sortit, rentra, et finalement, fatigué et meurtri, se coucha tout habillé sur son lit où un voisin, le lendemain matin, allait le trouver ronflant comme un tuyau d'orgue au milieu d'un magnifique désordre qui n'était pas pour autant un effet de l'art. Peu de temps après, on entendait dire par le village, et le braque et les copains ont rié sous cap, que le père Bédouin était si tellement saoul la veille au soir qu'il était tombé 8 fois en sortant de chez Fricot, qu'il avait tout renversé en rentrant chez lui, cassé sa lampe, pissé au lit et chié dans sa marmite.